Savez-vous la nouvelle, madame ? S'écria le roi Édouard, s'adressant à la reine. « Elle va certes vous contenter. Votre Mortimer s'est échappé de la tour. » Lady le Despenser sursauta devant l'échiquier et fit entendre une exclamation indignée, comme si l'évasion du baron de Wigmore était pour elle une insulte personnelle. La reine Isabelle n'avait pas bougé, ni d'attitude, ni d'expression. Ses paupières, simplement, battirent un peu plus vite devant ses beaux yeux bleus, et sa main chercha furtivement le long des plis de sa robe la main de Lady Mortimer, comme pour inciter celle-ci à la force et au calme. Le gros Bouville s'était levé et se tenait en retrait, se sentant de trop dans cette affaire qui regardait uniquement la couronne anglaise. « Ce n'est pas mon Mortimer, sire, » répondit la reine. « Le lord de Wigmore est votre sujet davantage, je crois, qu'il n'est le mien, et je ne suis pas comptable des actes de vos barons. Vous teniez celui-ci en geôle, il a cherché à s'enfuir, c'est la loi commune.
Ah ! Vous avouez bien par là que vous l'approuvez. Mais laissez donc paraître votre joie, madame. Du temps que ce Mortimer daignait se montrer à ma cour, vous n'aviez dû que pour lui. Vous ne cessiez de vanter ses mérites et toutes ses félonies à mon endroit. Vous les mettiez au compte de sa noblesse d'âme.
Mais n'est-ce pas vous-même, sire, mon époux, qui m'avez appris à l'aimer, du temps qu'il conquérait à votre place et au péril de ses jours le royaume d'Irlande, que vous avez, il semble, grand-peine à tenir sans lui? Était-ce la félonie ? Un instant démonté par cette attaque, Édouard lança vers sa femme un regard méchant et ne sut que répondre.
« Eh bien, à présent, il court, votre ami, il court, et vers votre pays, sans doute !»
Le roi, tout en parlant, marchait à travers la pièce pour libérer une agitation inutile. Les bijoux accrochés sur ses vêtements tressautaient à chacun de ses pas, et les assistants tournaient la tête de droite et de gauche, comme à une partie de longue paume, pour suivre son déplacement. Un fort bel homme, certes, le roi Édouard, musclé, alerte, souple, et dont le corps, entretenu par les exercices et les jeux, résistait à l'empattement de la quarantaine toute proche. Une constitution d'athlète. Mais à l'observer avec plus d'attention, on était frappé par le manque de rides au front, comme si les soucis du pouvoir n'avaient pu s'y inscrire, par les poches qui commençaient à se former sous les yeux, par le dessin effacé de la narine, par la forme allongée du menton sous la barbe légère et frisée, non pas un menton énergique, autoritaire, ni même vraiment sensuel, mais simplement trop grand, tombant trop bas. Il y avait 20 fois plus de volonté dans le petit menton de la reine que dans cette mâchoire ovoïde dont la barbe soyeuse ne parvenait pas à couvrir la faiblesse. La main était molle qui glissait sur le visage, tournoyait en l'air sans raison, revenait tirée sur une perle cousue aux broderies de la côte. La voix, qui se voulait, qui se croyait impérieuse, ne donnait d'autre impression que de manquer de contrôle. Le dos, un dos large pourtant, avait de déplaisantes ondulations depuis la nuque jusqu'aux reins, comme si l'épine dorsale eût manqué de solidité. Édouard ne pardonnait pas à sa femme de lui avoir un jour conseillé d'éviter d'offrir le dos au regard s'il voulait inspirer le respect à ses barons. Le genou était bien net, la jambe belle, c'était même là ce que possédait de mieux cet homme si peu fait pour sa charge, et sur lequel une couronne était tombée par une vraie mégarde du sort.
« N'ai-je pas assez de tracas ? N'ai-je pas assez de tourments ? » continua-t-il. « Les Écossais menacent sans cesse mes frontières, envahissent mon royaume, et quand je les affronte en bataille, mes armées s'enfuient. Et comment pourrais-je les vaincre, lorsque mes évêques s'entendent pour traiter avec eux, sans mon accord ? Lorsque j'ai tant de traîtres parmi mes vassaux, et que mes barons démarchent, lèvent des troupes contre moi en s'obstinant à prétendre qu'ils ne tiennent leur terre que de leur épée. Alors que depuis beau temps, depuis 25 années, l'oublie-t-on, il en a été jugé et réglé autrement par le roi Édouard mon père. Mais on a vu à Shrewsbury, on a vu à Boroughbridge, et on a vu ce qu'il en coûtait de se rebeller contre moi, n'est-ce pas, Lester ? »
Henri de Lester hocha sa grosse tête inclinée sur l'épaule. La manière était peu courtoise de lui rappeler la mort de son frère Thomas de Lancastre, décapité 16 mois auparavant, en même temps que 20 autres grands seigneurs étaient pendus.
On a vu, en effet, sire, mon époux, que les seules batailles que vous pouviez gagner étaient contre vos propres barons, dit Isabelle.
À nouveau, Édouard lui jeta un regard haineux.
Quel courage, pensait Bouville, quel courage à cette noble reine.
Et il n'est point juste, tout à fait, poursuivit-elle, de dire qu'ils se sont opposés à vous pour le droit de leur épée.
ne fût-ce pas plutôt pour les droits du comté de Gloucester que vous avez voulu remettre à Messire Hugh ?»
Les deux le Despenser se rapprochèrent l'un de l'autre, comme pour faire front. Lady le Despenser, la jeune, se dressa devant l'échiquier. Elle était la fille du feu comte de Gloucester. Édouard II frappa du pied le dallage. La reine était trop irritante à la fin, n'ouvrant la bouche que pour lui remontrer ses erreurs et ses fautes de gouvernement.
« Je remets les grands fiefs à qui je veux, madame. Je les remets à qui m'aime et qui me sert !»
s'écria Édouard en posant la main sur l'épaule de Hugh le jeune.